les grandes oreilles de la bibliothèque Triangle. Les grandes oreilles de la bibliothèque Triangle. Les grandes oreilles de la bibliothèque Triangle.
Bonjour, vous êtes sur Radio Quartier des Ondes, vous êtes dans l'émission Les Grandes Oreilles de la Bibliothèque Triangle. Je suis Virginia et je suis aujourd'hui avec Muriel.
Bonjour.
C'est ta première émission, je crois.
Oui.
Ça va être trop bien. Aujourd'hui, nous avons fait une petite sélection de livres, donc on a plusieurs choses différentes. Nous avons des contes, des poèmes et aussi des petits romans. Et je vais commencer avec un conte d'Orient. Je vais vous en lire deux parce qu'ils sont plutôt courts dans ce livre. C'est écrit par Jihad Darwish, qui est un conteur libanais très connu. D'ailleurs, on disait tout à l'heure, Muriel, que sa fille est aussi conteuse.
Et oui, chez les Darwish, on est conteur de père en fille. Donc, Leïla, qui est une conteuse professionnelle maintenant, et qui vit à Nantes, pas très loin de chez nous, et qui compte... Très bien.
Et du coup, ce livre est illustré par Catherine Louis, qui est très connue aussi, qui a fait de la gravure, je crois bien.
Oui, alors c'est une touche à tout. Elle est une illustratrice et autrice aussi connue dans littérature jeunesse. Et donc, elle fait aussi bien du papier découpé que de l'illustration au fusain, de la gravure sur bois. Enfin bon, ses albums sont juste... merveilleux.
Et là, nous sommes plutôt sur du papier découpé, un petit peu à la Guillopé, ceux qui connaissent. Donc, je vais commencer par le premier conte, c'est Les Trois Amis et l'Or. Donc, entre parenthèses, c'est « Celui qui tend un piège à son frère en sera lui-même victime ». C'est un proverbe arabe. Trois amis qui voyageaient ensemble s'arrêtèrent en pleine campagne pour se reposer sous un arbre isolé. À peine assis, ils aperçurent un petit morceau d'argile qui effleurait très légèrement dans la poussière. Ils creusèrent et découvrirent une jarre pleine de pièces d'or. Une jarre enfouie là depuis la nuit des temps. Fous de joie, ils se mirent à danser, à s'embrasser et à se rouler par terre. Ils étaient riches à présent, très riches. L'émotion finit par réveiller leur faim. L'un d'eux partit en ville pour chercher à manger. « À ton retour, nous partagerons l'or en trois parts égales », lui dirent ses amis. Tout au long du chemin, l'homme pensait à ce beau tas d'or qui brilla si fort. Il arriva en ville et acheta à manger. Mais son esprit n'était pas en paix. Soudain, il courut se procurer du poison violent qu'il mélangea à la nourriture. « Je dirai à mes compagnons que j'ai mangé déjà déjeuné en ville. Et après leur mort, je pourrai garder tout l'or pour moi. » Pendant ce temps, les deux autres avaient aussi réfléchi. À force de regarder le trésor, l'un d'eux proposa. « Pourquoi nous ne partagerions-nous pas cet or en deux ?» Il suffit d'éliminer notre ami à son retour et sa part sera pour nous. Lorsque l'homme revint, les deux autres le tuèrent, puis ils y s'assirent pour manger. Une heure plus tard, la jarre pleine d'or se retrouvera seule au milieu de trois hommes morts. Voilà, voilà. Je vais vous en lire une dernière de ce livre, un peu plus sympathique. C'est Les Deux Frères. La fraternité est le sel de la vie. C'est un proverbe kurde. À la mort de leur père, deux frères héritèrent d'un champ. Ils le travaillaient ensemble et partageaient la récolte en deux parts égales qu'ils gardaient dans le même grenier. L'un des frères avait une femme et enfant et l'autre était célibataire. Un soir, le célibataire réfléchit. « Mon père a une famille à nourrir alors que je suis seul. Il a eu sûrement plus besoin de moi que moi. » Et au milieu de la nuit, sans faire de bruit, il chargea 10 sacs de blé de sa part et les ajouta à celle de son frère. Un peu plus tard dans la nuit, le frère marié n'arrivait toujours pas à s'endormir. « Mon frère est célibataire. Il a sûrement plus besoin que moi de ce blé pour trouver une femme et fonder une famille. » Et avant l'aube, il se leva sans faire de bruit, entra dans le grenier, chargea 10 sacs de sa part et les ajouta à celle de son frère. Le matin, les deux frères se retrouvèrent devant les deux tas de blé qui n'avaient pas changé de volume. Ils se regardèrent avec un petit sourire et ils repartirent ensemble pour travailler leur champ. Ça change de l'autre.
Alors, moi j'enchaîne avec un joli petit roman qui s'adresse à des enfants de 8-9 ans, des enfants qui adorent les petits romans d'aventure. C'est un roman qui s'appelle « Écoute la baleine chanter », écrit par Elodie Chan aux éditions L'École des loisirs. Je commence par vous lire le début de l'histoire et puis après, ça sera à vous de découvrir. Frida, la mouette liseuse. À l'angle de la rue principale et du bas du bourg, depuis un des lampadaires du port, sur le store de la boutique de souvenirs, c'est là, précisément dans cet ordre, que Frida lâche une fiente chaque matin. Elle sait que certains rient de cette coquetterie de piaf. Frida s'en moque. Pour elle, c'est une façon formidable de commencer la journée. Frida est une jolie mouette avec une tache rouge sur le bec. Elle a toujours vécu sur l'île de Bout de la Terre. Aussi, elle connaît le coin sur le bout des palmes. Frida loge sur le port, dans la gouttière du libraire. Ça l'arrange car elle est ce qu'on appelle une mouette liseuse. Elle dévore les livres aussi vite que la friture des sardines. Et puis, habiter sur le port, ça a d'autres avantages. Les lundis, les mardis, Frida déjeune dans la poubelle du boucher. Mercredi et jeudi, elle pique des crevettes sur l'étal des pêcheurs. Le vendredi, elle se goinfre des restes de la pizzeria. Et le week-end, à la crêperie du port, Nolwenn prépare, rien que pour elle, une galette jambon gruyère. Ce samedi, Frida se dirige donc vers la crêperie, la salive au bec. Elle est loin de se douter qu'un événement extraordinaire va chambouler son petit déjeuner.
Eh bien, ça donne faim.
Oui. Donc, effectivement, un événement assez spectaculaire se passe dans le port. Une petite baleine a perdu sa maman et se retrouve coincée entre les bateaux. Et donc, Frida, heureusement, va pouvoir compter sur ses amis pour essayer de résoudre ce problème.
Et est-ce qu'on a ce livre à la bibliothèque?
Ah oui, alors. Mais pas qu'à la bibliothèque Triangle, vous pouvez aussi le retrouver dans d'autres bibliothèques de Rennes.
D'accord. Voilà. Bon, bah parfait. Alors, qu'est-ce que tu vas nous lire là maintenant, Muriel ?
Alors, un autre petit roman bien sympathique qui parle d'amitié, de fraternité. Une histoire qui enchante le monde, finalement. Et ça, ça fait du bien.
Ça fait plaisir.
Ouais, tout à fait.
Et du coup ?
Alors du coup, eh bien, je vais vous présenter un petit roman qui s'appelle « Le musée des générosités », écrit par Laurence Gillot, avec de belles illustrations d'Emma Morrison, aux éditions du « Pourquoi pas ?».
Et c'est pas celui-là où tu me disais qu'il y avait une lecture un peu particulière ?
Ah oui, alors c'est vrai que c'est un petit roman à deux voix. C'est-à-dire qu'il y a deux personnages qui parlent, Suzy et Idriss. Okay. Et Suzy et Idriss sont amenés à se rencontrer. Suzy. C'était l'hiver. Il n'y avait pas de neige, mais l'air était vif. On était allés aux grandes galeries avec maman. Bon, j'avais essayé un pull vert pomme entre deux rayons. « Oh, tu es ravissante !» s'était enthousiasmée ma mère. Et je l'avais gardé sur moi. La vendeuse avait mis dans un sac en papier le gilet que je portais en arrivant. Et puis elle me l'avait tendu. En sortant du magasin, on avait rencontré Anne Grinchou, une amie de chorale de ma mère. Elles avaient parlé, évidemment. Et moi, à côté d'elle, j'avais attendu en regardant tout autour de moi. Les passants, les voitures. C'est alors que je l'avais vu, un peu plus loin, sur le trottoir. Il était assis sur une couverture auprès d'une femme qui allaitait un bébé. Il mendiait. Il était recroquevillé, essayant de se réchauffer en frictionnant ses bras avec ses mains. Et c'est là qu'il m'avait frappé. Son anorak ne devait pas être très épais et il avait froid. Quand ma mère et sa copine s'étaient rendues compte que finalement elles allaient dans la même direction, elles s'étaient remises à marcher, je les avais suivies. Et en passant devant le garçon, j'avais lâché mon sac. Je m'étais retournée pour m'assurer qu'il s'en était bien emparé. Il avait de grands yeux doux en amande, avec beaucoup de cils. Idriss. Cette fille, je l'avais repérée. Il faut dire qu'assis sur ma couverture, je n'avais que ça à faire, regarder les autres. Leurs beaux manteaux, leurs chaussures fourrées, leurs pantalons chauds, les enfants et les poussettes, les vélos et les trottinettes, les chiens au bout de belles laisses. J'avais aussi le nez au niveau des sacs remplis de victuailles. Parfois même, des cages frôlaient mon visage, avec à l'intérieur des chats, des souris, des oiseaux. Tout était tellement différent de chez moi. Tout était découverte. Bref, je l'avais repérée. Elle avait ses tresses et son manteau à pois. Elle suivait sa mère et une autre dame. Quand elle était passée devant moi, elle avait lâché un sac en papier craft et elle s'était retournée comme pour me dire « Ce n'est ni un oubli, ni une maladresse de ma part. Je l'ai fait exprès, c'est bien pour toi. » Dans le sac, il y avait un gilet rouge en laine. J'avais froid et je l'ai enfilé aussitôt sans me poser de questions. Je n'aimais pas le rouge, c'était ma couleur détestée à l'époque. La couleur du sang. Son gilet, je l'ai porté tout l'hiver, tous les jours, sans le laver. Il était chaud, confortable. Il y avait une fleur brodée côté cœur. Mon copain Samir s'était moqué plusieurs fois de moi, disant que c'était un vêtement de fille. Mais pourquoi les garçons ne porteraient-ils pas de fleurs ? Ce qui était dans les poches, je l'ai trouvé tout de suite. Un mouchoir tout propre en papier et une figurine de chat en plastique. Ce chat, je l'aimais immédiatement, car il ressemblait à celui qu'on avait chez nous avant qu'on parte. Loukoum, il s'appelait. Une étiquette brodée était aussi cousue sur le col du gilet. Je n'ai pas su la lire. Ces lettres-là, je ne les connaissais pas encore. Voilà, donc Suzy et Idriss, au hasard de la vie, se retrouveront bien plus tard. Mais il s'est passé des choses entre-temps.
Eh ben moi, j'aimerais bien connaître la suite.
Voilà, vous pourrez le découvrir. Vous pouvez retrouver ce livre à la bibliothèque Triangle, bien sûr.
Évidemment.
Évidemment, dans d'autres
bibliothèques. On a tout ce que vous voulez.
Voilà.
Thank you.
What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing,
don't wanna worry.
But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane?
Insane.
I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing,
don't wanna worry.
But it makes me terrified to be on the other side.
Je vais terminer avec un dernier petit album qui est un livre poétique. C'est Ceci est un poème qui guérit les poissons. C'est l'un de tes coups de cœur d'ailleurs.
Mm.
Et du coup, je l'ai découvert tout à l'heure.
Ouais.
Et je l'ai trouvé vraiment sympa. Mm. Donc, c'est Jean-Pierre Siméon et Olivier Talec. Voilà. Et c'est des éditions Rue du Monde. J'ai failli oublier. Maman! Mon poisson va mourir. Vite, il va mourir d'ennui, mon Léon. Sa maman a regardé Arthur. Elle a fermé les yeux, elle a rouvert les yeux. Puis elle a souri. Alors donne-lui vite un poème. Et elle partit à son cours d'hélicone. Un poème ? Mais qu'est-ce que c'est un poème ? Arthur est allé voir dans le placard de la cuisine. Y a-t-il un poème par ici ? « Pas des poèmes !» ont répondu mollement les nouilles. Arthur a fouillé dans le placard à balai. « Pas des poèmes, parisé !» a dit la serpillière qui est toujours enrhumée. Arthur a cherché sous le lit de ses parents. Pas de poèmes et même pas de peau à pouffer la poussière. Arthur est têtu. Il a couru chez le marchand de vélos Lolo. Lolo qui sait tout, qui rit tout le temps et qui est toujours amoureux avec les filles. Il réparait un pneu en chantant. Un poème, Arthur, c'est quand on aime, on a du ciel dans la bouche. Ah oui ? Ah bon ? Arthur est allé voir Madame Rondu, la boulangère. C'est son amie. Elle vendait une baguette et trois croissants à Madame Pointu. Un poème ? Je ne sais pas très bien. J'en connais un, il est chaud comme le pain. Quand on le mange, il en reste encore. Ah oui ? Ah bon ? Arthur a demandé au vieux Mahmoud, qui vient du désert, et arrose les rhododendrons tous les jours à 9h. Mahmoud lui a répondu sans hésiter. Un poème, c'est quand tu entends battre le cœur des pierres. Ah oui ? Ah bon ? Le cœur ? Oh, vite le cœur de mon Léon ! Arthur est rentré d'urgence chez lui. Son poisson semblait s'être endormi. Il glissait doucement dans les algues comme s'il pensait. Arthur a filé à l'autre bout de la maison pour interroger son canari, Aristophane, qui n'a pas une cervelle d'oiseau. Aristophane a dit, en gonflant ses plumes, « Le poème, c'est quand les mots battent des ailes, c'est un chant dans la prison. »«
Ah oui ? Ah bon ?»
Alors mamie est arrivée avec son chien, sa nouvelle voiture et 3 pots de confiture. « Mamie, mamie, c'est quoi un poème ?» Elle a beaucoup réfléchi. Ça se voit quand elle réfléchit, elle sourit avec un air bête. « Quand tu mets ton vieux pull à l'envers, mon Arthur, on dirait qu'il est neuf. Le poème met les mots à l'envers et hop, le monde est neuf. »«
Ah oui ? Ah bon ?»
Mais demande à ton papy, il en écrit souvent des poèmes, au lieu de réparer la chasse d'eau. « Un poème ?» a dit papy, en tirant sa moustache et en fronçant les sourcils. « Un poème, c'est ce que font les poètes. »«
Ah oui ? Ah bon ?»
Si même les poètes ne savent pas, Arthur est retourné voir son poisson dont le cœur l'inquiétait tant. Léon dormait profondément sous un caillou, immobile, tout au fond des algues. « Désolé, mon Léon, je n'ai pas trouvé de poème. Tout ce que je sais, c'est que... un poème, c'est quand on a du ciel dans la bouche, c'est chaud comme le pain. Quand on le mange, il en reste encore. Un poème, c'est quand on entend battre le cœur des pierres. Quand les mots battent les ailes, c'est un chant dans la prison. Un poème, c'est les mots tête à l'envers et hop, le monde est neuf. » Léon a ouvert un œil, puis l'autre. Et pour la première fois de sa vie, il a parlé. « Alors, je suis un poète, Arthur. »«
Ah bon ?»
Et le poème est mon silence. Ah oui. Et voilà. Eh bien, je pense que c'était la dernière. Donc, j'espère que vous avez apprécié nous écouter, les musiques que nous vous avons proposées. Et nous nous reverrons dans tous les cas dans 2 mois également. Donc, merci à toi, Muriel, t'as géré comme une chef.
Merci, ça m'a fait plaisir de vous faire partager mes coups de cœur.
Ça fait plaisir, voilà. Et là, on va vous mettre notre dernier coup de cœur aussi musical.
Carretera y manta, lo que tanto me dolió. Carretera y manta, lo que tanto me dolió. Ahora se ve por el retrovisor. Tengo ruedas nuevas, asfalto de sobra, te busco a la hora. Amor de gasolina, amigo, medicina, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré buscando la salida. Quiero una copa que suste mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo. Carretera y manta, ya no freno el corazón, ni quiero ir pidiendo perdón. Si llueve que llueva, algunos se irán, pero los buenos se quedan. Amor de gasolina, amigo, medicina, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Te encontré buscando la salida. Quiero una copa que suste mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo. El mundo por montera, me río de mí, contigo salto la regla. No pierdo mi tiempo en quien levanta la ceja. No mires atrás, que los valientes no esperan. El mundo por montera, me río de mí, contigo salto la regla. No pierdo mi tiempo en quien levanta la ceja. No mires atrás, que los valientes no esperan. Quiero una copa que suste mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo.